Bonjour. Comme je vous le disais dimanche passé, et je crois avoir été très clair, et si vous n'avez pas écouté le message de dimanche passé, écoutez-le. Je crois que Jésus n'est pas mort le vendredi, comme nous le disent les théologiens, mais le jeudi. La Bible est claire à ce sujet, mais encore faut-il la lire. La Bible... On ne la lit pas comme un roman, on cherche, et ceux qui cherchent y trouvent. Bien, aujourd'hui je vais vous parler du sacrifice parfait de Jésus, et on va commencer par faire une lecture dans Hébreux, au chapitre 9. Voilà ce qui est dit. C'est l'apôtre qui parle et qui dit, « La première alliance, celle qui avait été faite à Moïse, avec Moïse, la première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, une première tente avait été installée qu'on appelle le sacré, où se trouvaient le porte-lampe, la table et les pains offerts. Puis, derrière le second voile, se trouvait la tente appelée très sacrée ou lieu très saint. Pourquoi il parle de deux voiles? Parce qu'il y avait le parvis, ensuite il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu très saint. Alors, ce lieu très saint contenait un autel à encens, en or, et le coffre de l'Alliance, entièrement recouvert d'or, dans lequel il y avait une urne d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tablettes de l'Alliance, ce qui avait été donné à Moïse, les commandements. Au-dessus du coffre se tenaient les kéroubim, c'est-à-dire les chérubins glorieux qui couvraient de leur ombre l'expiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail, c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'était pas son but, mais il en parle quand même là parce qu'il a des choses à expliquer. Tout cela étant ainsi installé, les prêtres entrent en tout temps dans la première tente lorsqu'ils accomplissent le rituel du culte. Là donc où il y a le porte-lampe, la table, les pains, etc., etc., ils entrent là pour accomplir le rituel du culte. Mais dans la seconde, c'est-à-dire là où il y a le coffre en or avec à l'intérieur le bâton de Moïse et toutes ces choses, le bâton d'Aaron, pardon, et toutes ces choses, dans le second, seul le grand prêtre pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Et l'Esprit Saint montre bien par là que le chemin du sanctuaire ne s'est pas encore manifesté tant que la première tente subsiste. Il est en train de dire que voilà, maintenant il y a une nouvelle alliance. Jésus, quand il a pris le repas avec ses disciples, il a rompu le pain, il a dit ceci est mon corps, il a pris du vin, il a dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et l'apôtre continue en disant c'est une parabole pour le temps présent. Il résulte que les dons et sacrifices présentés ne peuvent pas porter à son accomplissement sous le rapport de la conscience celui qui prend part à ce culte. Ce ne sont là que des ordonnances relatives à la chair, portant sur des aliments, des boissons et différents bains rituels, et imposés jusque à un temps de réforme. Quand Jésus est venu, il a réformé cela, Il a créé une nouvelle alliance, il a institué une nouvelle alliance. Au verset 11, il continue en disant « Mais le Christ apparu comme grand prêtre des biens qui sont apparus. Il a traversé la tente plus grande et plus accomplie qui n'est pas fabriquée de main humaine, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, c'est-à-dire il est allé directement dans le lieu très saint, là où se trouve le trône du Père éternel, avec son propre sang. En effet, Excusez-moi, je relis le verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou du taurillon, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Rédemption, ça veut dire rachat, il nous a rachetés pour l'éternité. Enfin, du moins ceux qui croient en lui. En effet, si le sang de bouc et de taureau ou la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui ont été souillés consacre de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Une mort ayant eu lieu pour la rédemption, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel qui a été promis. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est vraiment ferme qu'en cas de décès, puisqu'il n'a jamais de validité tant que le testataire est en vie. Il fallait que Jésus meure et entre avec son sang dans le lieu très saint, et même terrestrement, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré du haut en bas, au moment où Jésus est mort. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Car Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des taurillons et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il aspergea le livre lui-même ainsi que tout le peuple, en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a institué pour vous ». Ça, c'est ce que Moïse a dit à son peuple en son temps. De même, il aspergea de sang la tente et tous les objets du service, d'ailleurs selon la loi, presque tout, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On va revenir sur ce presque tout qui intrigue tellement les chrétiens, enfin du moins ceux qui lisent la Bible. Il était donc nécessaire, d'une part, que les copies des choses célestes soient purifiées de la sorte, et d'autre part, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices supérieurs. Donc le temple, c'était la copie de ce qu'il y est dans le ciel. En effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable, que le Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. Ce n'est pas non plus pour s'offrir maintes fois comme le grand prêtre, entre chaque année après année, dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien, sans quoi il aurait dû souffrir maintes fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voilà. Et on peut continuer. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché d'une multitude. Il apparaîtra une seconde fois, Jésus donc, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Voilà, il apparaîtra pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Dieu a fait une alliance avec les hommes avant que Jésus, qui est Dieu fait chair, ne vienne parmi nous. Cette première alliance, elle avait ses ordonnances. On vient de lire un résumé de tout cela. L'apôtre Paul dit, c'est pas le sujet, mais je vous en parle quand même. Il y avait donc des ordonnances précises. Il y avait un temple partagé en trois. Il y avait donc le parvis où les gens pouvaient entrer. Il y avait le lieu saint, ou lieu sacré. Et puis derrière, un voile épais, se trouvait le lieu très saint. Et les prêtres entraient dans le lieu saint, mais ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le lieu très saint. Pour accomplir les rituels du culte, ils entraient, c'était tous les jours, mais dans le lieu très saint, le lieu sacré, là où il y avait l'arche de l'Alliance, seul le grand prêtre pouvait entrer, et cela, une fois par an, pour y présenter du sang d'animaux sacrifié, et il présentait ce sang pour lui-même, pour ses propres péchés, parce que même les prêtres, tout homme pêche, et pour le peuple. En fait, ce temple était l'image de ce que nous avons en réalité aujourd'hui. Ce temple était l'image de ce qui est dans le ciel, mais c'était aussi l'image de ce que Jésus est venu faire ici en nous proposant cette nouvelle alliance. Seuls ceux qui prennent conscience de ce qui se passe dans le temple pouvaient avoir sa conscience lavée des péchés qu'ils avaient commis. Parce qu'il y avait aussi des juifs qui s'en fichaient complètement, faut pas croire. Et ceux qui prenaient conscience de ce qui se passait, leurs péchés étaient pardonnés. Et ce qui s'y passait était des ordonnances relatives à la chair, cela portait sur les aliments, sur les boissons différentes, il y avait des bains rituels et tout ça, ça a été imposé aux juifs jusqu'au temps de la réforme. Je ne parle pas de la réforme protestante, là je parle de la réforme de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Quand Jésus est venu, il est apparu comme grand prêtre. Quand il est mort sur la croix, le voile qui séparait le lieu sacré du lieu très sacré s'est déchiré du haut en bas. Ça ne pouvait pas être fait par la main d'un homme. C'est Dieu qui a déchiré ce voile pour dire voilà maintenant l'accès au lieu très saint est ouvert. C'est Jésus qui a ouvert, qui a laissé. Maintenant on peut entrer dans le lieu très saint humblement. Et parce qu'il nous a pardonné. Et Jésus est entré dans ce lieu sacré céleste. Il n'est pas entré dans le temple terrestre, il est entré dans le temple céleste. Le temple terrestre à Jérusalem n'était que l'image de ce qu'il y avait dans le ciel. Il n'est pas entré avec du sang de bouc, avec du sang de taureau ou autre, mais avec son propre sang. Et il l'a présenté au Père. Et c'est ainsi qu'il a obtenu, pour ceux qui croient en lui, une rédemption, un rachat éternel. Le mot rédemption, ça signifie rachat, je le dis parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et il nous a rachetés au prix de son sang. Il n'y a rien qui peut être ajouté à ça. Il n'y a rien qui a autant de valeur que le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est le médiateur, le seul médiateur, est le médiateur d'une alliance nouvelle. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas d'autre médiatrice, c'est que Jésus qui est mort et qui a présenté son sang. On observe ça dans les versets 18 à 22 que je viens de vous lire. Et la question qui m'a taraudé longtemps, c'était pourquoi la Bible dit, dans ce texte-là, que presque tous les péchés sont pardonnés, sont purifiés par le sang, c'est écrit. Attendez, je vais vous relire ça. Hébreux 1, 18... Enfin, on l'a lu tout à l'heure, je ne le retrouve plus là. Eh bien, je vais vous lire un texte qui se trouve dans Lévitique 15, 2, 5. Lévitique 15, 2, 5, pardon. Alors, c'est « Dites aux Israélites, tout homme atteint d'un écoulement génital est impur. » Mais qu'est-ce qu'il y peut, le pauvre ? à moins qu'il ait chopé une maladie sexuellement transmissible. Bon. Dites aux Israélites, tout homme atteint d'un écoulement génital est impur. Voici en quoi consiste l'impureté liée à son écoulement, que sa chair le laisse couler ou qu'elle le retienne. Telle est son impureté. Tout lit sur lequel se couche celui qui est atteint d'un écoulement sera impur et tout objet sur lequel il s'assied sera impur. Celui qui touche son lit lavera ses vêtements et se lavera avec de l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, voyez, on pouvait être lavé, purifié de ça par de l'eau. Il n'y avait pas besoin de sang, là. Quiconque s'assied sur l'objet sur lequel s'est assis, celui qui est atteint d'un écoulement, lavera ses vêtements, se lavera avec de l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, de l'eau, voilà. Donc, presque tout est purifié avec le sang, mais là, non, là, bon, on pouvait être purifié avec de l'eau. Ça, c'est une chose. C'est un point. Il y en a d'autres, vous lirez tout ça dans le Lévitique. Et il y a le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne peut pas être purifié par le sang. Dans les contextes des évangiles de Marc, Matthieu, Luc, on comprend que le blasphème contre le Saint-Esprit consiste à attribuer à Satan l'œuvre faite par le Saint-Esprit. Dieu pardonne ceux qui ont blasphémé contre le Fils de l'homme, contre Jésus. Jésus pardonne ceux qui ont dit qu'il travaillait avec Beelzebuth. Mais depuis que le Saint-Esprit vit en nous, il n'y a plus de pardon possible. Pourquoi ? Parce que les gens qui disent qu'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui fait des miracles au nom de Jésus, par le Saint-Esprit qui est en elle ou en lui, c'est par le diable qu'il le fait, et s'il ne se repent pas de cela, il mélange l'homme habité par le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit et il dit que c'est le diable. Ça, c'est pas pardonnable. Bon, il peut ne pas aimer la personne qui prie pour les malades, et voilà, on peut comprendre, pour une raison ou pour une autre, mais attribuer les miracles qu'il fait au nom de Jésus au diable, dire ce n'est pas par le Saint-Esprit mais c'est le diable, ça c'est impardonnable. À moins qu'il ne reconnaisse que la personne qu'il a incriminée est rempli du Saint-Esprit et qu'il demande pardon, et malgré le côté humain. Vous savez, bon, moi, il m'est arrivé tout au long de mon ministère de faire des miracles au nom de Jésus par le Saint-Esprit, mais je suis qu'un homme, et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont de la difficulté à me supporter. Mais dire que les miracles que j'ai faits au nom du Seigneur Jésus-Christ en imposant mes mains, comme la Bible dit de le faire, dire que c'est le diable qui fait les miracles, ça c'est impardonnable, à moins de se repentir. Mais les gens qui disent ça, en général, ne se repentent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'orgueil. Ils ont de l'orgueil, ils veulent pas demander pardon. On va lire dans Matthieu, chapitre 12, pour commencer, ce que Jésus dit de cela. 12, verset 24 d'abord et 31. 12, 24. Les pharisiens dirent, il ne chasse les démons que par Beelzebul, le prince des démons. Vous voyez, les religieux à l'époque disaient que Jésus chassait les démons par le démon qui était en lui. Alors, ça c'était au verset 24, et Jésus prend la parole, il explique, et il dit, au verset 28 et 29, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort ? Attendez, c'est Matthieu 31. C'est pourquoi je vous le dis. tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parle contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire contre lui-même, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Mais l'Esprit Saint, c'est lui qui fait les miracles aujourd'hui. L'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Il a dit, je viens habiter en vous, par mon Esprit. Et si Jésus fait des miracles au travers de vous, et que quelqu'un dit que vous faites des miracles par le démon, ça ne sera pas pardonné. Il faut être clair, hein. Il faut être clair. Dans Marc 3, 22, maintenant, parce que Jésus insiste beaucoup, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzébuth », c'est-à-dire « Il a le diable ». C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons, vous voyez. Ils disaient ça de Jésus. Et Jésus reprend la parole au verset 28 et 29 et il dit « Je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes sans péché et blasphème autant qu'ils en auront proféré. » Mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. On va lire ça dans Luc maintenant, puisqu'il le répète encore. Luc 12, 8, 10. Luc 12, 8, 10. Je vous le dis, quiconque se reconnaît en moi devant les gens, c'est-à-dire témoigne de moi, témoigne de qui je suis. Moi, le Fils de l'homme, je vous le dis, quiconque se reconnaît en moi devant les gens, le Fils de l'homme le reconnaîtra aussi devant les anges de Dieu, mais celui qui m'aura renié devant les gens sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire contre lui-même, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, il ne sera pas pardonné. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Jésus faisait des miracles. Certains l'ont traité de démon. On vient de le lire. Il a dit, je pardonne, Dieu pardonne, je vous pardonne. Moi, la parole faite chair, moi, Dieu fait chair, je vous pardonne. Et puis il est mort à la croix, il a versé son sang, sacrifice parfait, offert pour tous ceux qui croient en lui, hein, dans Jean chapitre 3, verset 16, celui qui croit en lui a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas, dans Marc 16, c'est écrit, sera condamné. Puis il est monté au ciel, et il vit maintenant dans ses enfants par son esprit. Le Saint-Esprit. Quand Jésus est mort en croix, son sang a été versé une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de refaire de nouveau le sacrifice de Jésus avec la messe et toutes ces histoires. Non, Jésus est mort une fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Si tu as péché, tu confesses ton péché à Dieu qui est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. Il est venu pour verser son sang pour notre rachat et mourir en tant que sacrifice. Et c'est une condamnation qui si quelqu'un renie ce sacrifice, eh bien, il prend sur lui la condamnation. Si quelqu'un meurt dans cet état en disant « Non, je ne veux pas de Jésus-Christ, je veux pas », s'il meurt dans cet état, le sang de Jésus ne peut rien faire pour lui. C'est lui qui ne veut pas, il veut pas, il veut pas du sacrifice de Jésus pour lui, bon, ben, il est perdu, mais c'est lui qui le veut. Vous comprenez pourquoi il y a des sacrifices, il y a des péchés, presque tous les péchés sont lavés par le sang, mais là, non. Voilà ce que Jésus a fait, et voilà ce qu'il continue de faire. Il est remonté au ciel, et il vit en ceux qui croient en lui par son esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une autre personne, c'est Christ qui vit en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors maintenant, on est dans le jour où ce sacrifice a eu lieu, il y a plus de 2000 ans maintenant. Jésus revient bientôt et il va juger. Alors, où est-ce que tu en es? Si tu as dit qu'un tel qui fait des miracles au nom de Jésus les a fait par Bézébuth, si tu as dit qu'un tel ou un tel qui fait des miracles au nom de Jésus n'a pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu dis qu'il a un démon, eh bien, tu es perdu. Repends-toi, c'est-à-dire, si la personne est encore vivante, écris-lui, téléphone-lui, dis-lui pardon, 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 pardon. Et tu seras pardonné. Mais si tu persistes dans cette idée, tu seras condamné. Tu crois être un chrétien, parce que si, parce que ça, mais non. Dire qu'un homme ou une femme, mais on est tous, il n'y a personne qui est parfait. Suis-je parfait? Non. Et pourtant, le Saint-Esprit travaille au travers de moi. Mais si tu dis que c'est le diable qui fait ça, si tu dis que ce n'est pas le Saint-Esprit, je connais un homme qui a écrit « Michou et Michel n'ont pas le Saint-Esprit ». Il dit quoi là? Il dit que j'ai le diable. Eh ben, il ira en enfer avec ça, à moins qu'il se repente. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus, c'est pas rien. On ne méprise pas les paroles de Jésus. C'est très grave. C'est très grave de prendre ça à la légère. C'est très grave. C'est pourquoi je voulais prêcher ça aujourd'hui, pour vous expliquer que presque tous les péchés peuvent être pardonnés par le sang. Et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais presque tous, là on en a vu, trois, hein, celui qui a un écoulement, celui qui blasphème, et celui qui renie et qui meurt dans cet état-là. Moi, je connais un pasteur qui a refusé qu'on lui apporte sa Bible sur son lit de mort. C'est terrible. C'est terrible. Et on ne sait jamais ce qui se passe dans le cœur des gens. Dieu seul sait ce qui se passe dans votre cœur. Dieu et vous. Alors, où est-ce que vous en êtes? Mettez-vous en ordre et puis soyez au bénéfice du sacrifice parfait que Jésus a accompli à la croix en versant son sang précieux. Vous savez, la Bible nous dit « la vie est dans le sang ». Quand Jésus a versé son sang, ça veut dire qu'il a donné sa vie. Il l'a donné pour que vous l'ayez, vous. Ne reniez pas ça, ne rejetez pas ça. Soyez des gens sensés. Que Dieu vous bénisse. À dimanche, au revoir.